Au fil des pages. Au fil des pages, une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, les sciences sociales occupent une place importante parmi les 6 sections de l'Académie des sciences morales et politiques, puisque la section morale et sociologie regroupe 8 académiciens, parmi lesquels plusieurs éminents sociologues français. Mon invité d'aujourd'hui, le sociologue Michel Crozier, élu en juin 1999, est l'un d'entre eux. Monsieur Crozier, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de publier chez Fayard le premier volet de vos mémoires que vous avez intitulé « Ma belle époque ». Et ces mémoires couvrent les années 1947 à 1969-70. Et durant le temps de cette émission, nous ne pourrons hélas évoquer que quelques années, car votre livre est très riche et votre vie très remplie. Commençons, si vous le voulez bien, par l'année 1947. Vous faites votre thèse sur les syndicats américains, vous embarquez pour les États-Unis, ce qui n'était pas très fréquent à l'époque, puis vous écrivez des articles dans la fameuse revue française Les Temps modernes sur l'Amérique, les syndicats, les grandes entreprises, l'Angleterre travailliste, et vous rédigez aussi des articles pour la revue Esprit, dirigé par Jean-Marie Domenac. Là, je fais un résumé de tout ce que vous avez fait, parce que je ne peux pas détailler. Bref, étiez-vous, comme on dit, un marxiste indépendant, un américain de gauche, en tout cas un intellectuel de gauche?
Je ne me posais pas tellement la question. Je ne voulais pas avoir un label. J'étais ce que j'étais. C'est assez français aussi de ne pas vouloir s'embrigader. Je remarque qu'on se moquait un petit peu de moi en m'introduisant comme marxiste indépendant.
Enfin, vous assumez.
Oh, j'assume tout, vous savez.
Alors, le premier événement marquant de votre vie, en 1953, vous êtes élu au CNRS. Et à partir de ce moment, vous allez commencer le travail de sociologue sur le terrain et mener de grandes enquêtes sociologiques. Votre première enquête concerne les demoiselles des postes, c'est-à-dire les PET. C'était PTT à l'époque, je crois.
PTT, mais c'était les chèques postaux qui étaient un peu à part.
Alors, racontez-nous à quoi consistait ce travail de sociologie.
Je voulais comprendre la conscience de classe des gens qui n'avaient pas de conscience de classe, les employés de bureau, alors qui étaient un peu terra incognita de la pensée marxiste, qu'on affublait d'une conscience de classe, mais en fait, on savait bien qu'ils ne l'avaient pas et que c'était un retard à combler et qu'on n'arrivait pas à combler. Donc, je vais bravement aux chèques postaux parce que ça avait les caractéristiques tout à fait nécessaires de la conscience de classe, c'est-à-dire un travail répétitif, peu payé, et donc normalement les filles auraient dû avoir la conscience de classe. Donc j'ai interrogé ces demoiselles, je les faisais simplement parler, elles adoraient ça, elles allaient, disaient-elles, au confessionnal, ça se passait très bien, mais de conscience de classe, point du tout.
Bon.
Point du tout. Alors, c'est ma première révélation. C'est-à-dire que la réalité telle qu'elle est vécue par les gens n'a rien à voir avec l'image qu'on en donne en fonction d'une théorie sociologique.
Avez-vous fait la même constatation quand vous avez poursuivi vos enquêtes auprès des grandes banques, des assurances, de tous les grands services publics, des administrations?
Oui, tout à fait. Sauf que je savais bien que ça n'intéressait pas les gens, en fait, pratiquement. En revanche, il y avait des choses qui étaient très prégnantes, très fortes, que j'avais diagnostiquées, que j'ai retrouvées, qui correspondaient bien à ce que j'avais vu aux chèques postaux. Donc, aux chèques postaux, j'ai découvert que la conscience de classe, ça n'existait pas pour elles, d'une part, et d'autre part, qu'elles étaient très marquées par un système qui était un peu absurde. Et c'est le point de départ d'une réflexion sur le système administratif public et plus que public à la française.
Alors, ces enquêtes et les résultats des enquêtes que vous meniez ont-elles permis des réformes ?
Non, pas du tout. Moi, je me suis heurté à l'imperméabilité de l'administration à un point presque ridicule.
Et lorsque vous avez fait une enquête dans les préfectures, est-ce que cette enquête non plus n'a pas abouti à une réforme des structures ?
Non, ça n'a pas abouti, mais j'ai eu une réponse beaucoup plus intéressée, une envie de discuter, une réponse favorable de la part de beaucoup des préfets que j'avais étudiés.
Si je voulais résumer votre travail, serait-il juste de dire que vous êtes sociologue en organisation et que vous cherchez à comprendre les relations qui s'établissent dans les différentes catégories sociales ?
Entre les personnes
entre les catégories
sociales, je n'exclus pas les personnes. Je mets en question d'ailleurs la vision de classe des catégories sociales, comme si c'était des personnes. Ça n'a pas beaucoup de sens, en fait, quand on regarde de près la réalité.
Donc vous n'êtes pas fondamentalement marxiste.
Je suis parti avec des illusions marxistes que j'ai abandonnées face à la réalité.
Vous avez d'ailleurs affirmé une idée qui était novatrice à l'époque, le pouvoir, ça n'est pas un bien qu'on se dispute.
J'ai développé ça au cours de ma seconde grande enquête, qui est le travail sur les manufactures de tabac.
La CEITA, oui.
La CEITA, parce que j'ai pu faire une enquête assez complète pour voir les différents aspects et surtout regarder les gens les uns par rapport aux autres et en dépassant la relation pour aboutir à une analyse de tout le système.
Donc le pouvoir, vous avez dit, ça ne peut pas se quantifier, ça ne se mesure pas en chiffres. Donc vous vous êtes à ce moment-là positionné un peu contre la tendance qui allait devenir très forte en sociologie et notamment aux États-Unis, c'est celle de quantifier et de donner des statistiques, enfin je suppose
c'est ça.
Que c'est cela.
Ben, je ne suis pas contre les statistiques,
naturellement
quand
pas.
Les statistiques essaient de définir des choses précises.
Nous évoquons avec Michel Crozier « Ma belle époque », le premier tome de ses mémoires paru chez Fayard. Autre grand moment de votre vie, Monsieur Crozier, votre séjour à Stanford aux États-Unis dans les années 60 au Centre pour l'étude avancée des sciences du comportement. Je dois dire que j'ai pris un grand plaisir à lire ce chapitre parce qu'il est très révélateur d'une certaine ambiance, la manière dont on avait la liberté de faire des recherches. Certaines étaient sans doute très sérieuses, d'autres étaient très inattendues.
Oui, mais c'était l'habit Telem. On fait ce que tu
as envie,
ce dont tu as envie. Voilà, vas-y, tu as la liberté. Mais c'était plus que la liberté. C'est ça que j'ai beaucoup apprécié en Amérique, que j'ai essayé de reproduire, que j'ai pas pu reproduire. C'est l'intérêt réel de tout le monde pour la connaissance. Il y avait une sorte de révérence, de respect de la connaissance. Curieusement, la France super intellectuelle, théoriquement passionnée de savoir, n'avait pas ça, n'avait pas le respect des personnes qui se dévouent à la vérité par la connaissance.
Vous écrivez une phrase qui est assez révélatrice justement du climat intellectuel des années 60 par rapport à la sociologie, parce qu'à la revue Esprit, où vous comptiez beaucoup d'amis, on disait « il est très bien ce Crozier ». malgré sa sociologie.
Oui, c'est ça.
C'est pour dire que la sociologie en France dans les années 60, c'était pas du tout à la mode. Quand
c'était
est-ce devenu à la mode?
Ben, c'est devenu à la mode très peu de temps après, au milieu des années 60, et juste avant 68. Nous étions la discipline à la mode en 68. C'est pour ça que c'est chez nous que ça a craqué.
Alors évidemment, votre chapitre qui concerne la révolution de mai 68, j'hésite à dire le mot révolution parce que je sais que c'est un mot finalement que vous n'approuvez pas puisque vous intitulez votre chapitre « Une si jolie révolution », mais au fond vous dites « On a joué à la révolution ».
Oui, oui, tout à fait. Mais
Donc ce n'est pas une vraie révolution pour vous.
Écoutez-moi
pour
les
d'ailleurs.
Mots, je ne les prends pas vraiment au sérieux les mots. C'était une révolution, si l'on veut, simplement dans la perspective, dans la tradition française, il n'y a pas de révolution quand il n'y a pas de mort. Il n'y a pas eu de mort. Il y a eu des morts par hasard. Il y a eu 3-4 morts par hasard qui n'étaient pas voulues par les uns ou les autres. On n'a pas tiré sur la foule.
Heureusement. Alors, resituons le contexte. Vous êtes professeur à Nanterre, une université assez nouvelle et un peu agitée. Et parmi vos élèves, l'un de vos élèves, c'est justement Cohn-Bendit.
Mon cher ami Cohn-Bendit.
Voilà.
Oui.
Alors, racontez-nous un peu cette ambiance. Vous avez néanmoins assuré vos cours jusqu'au bout.
Oui,
tout à fait.
J'ai été harcelé, mais je ne sais pas pourquoi, mais enfin par esprit. Contre-courant, je ne voulais pas céder. Je n'ai pas cédé et les choses se sont bien passées.
Parce qu'elles se sont aussi déplacées de Nanterre à la Sorbonne,
assez rapidement. Oui, jusque j'ai fait cours le 3 mai, mais personne n'a plus fait cours après, ni à la Sorbonne, ni à Nanterre.
Vous avez une expression qui m'a étonnée. Nanterre, dites-vous, ce fut une explosion de rire. Voilà comment on voit la révolution de mai 68 à travers ces pages.
Oui, à un moment, je veux dire, la révolution, dans sa période de montée, était une période de joie extrême. On peut parler de rire. Il y a quelque chose qui me reste en mémoire, c'est Cohn-Bendit faisant le pitre, monté sur une table dans le grand hall qui était la place publique de Nanterre, monté sur une table et faisant la parodie de Cohn-Bendit. Il se moquait de lui-même et ça déclenchait des rires en chaîne. Pour moi, c'est très fort. C'était quelque chose de presque touchant, curieux.
En tout cas, inattendu pour nous, les lecteurs, c'est tout à fait inattendu. Michel Crozier, merci d'avoir feuilleté avec nous les pages de ce premier tome de vos mémoires. Nous attendons avec impatience le second ou le deuxième, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Celui-ci va donc des années 47 à 69-70 et vous préparez...
J'ai fait, permettez-moi ce petit post-scriptum, je n'ai pas réussi à bien couper. Parce que je voulais parler de l'Amérique et j'ai parlé de l'Amérique, j'ai parlé de la révolution en Amérique car j'étais à Harvard et à Harvard il y a eu la révolution
à Berkeley,
entre double
sûr.
Guillemets.
Oui.
Alors je ne voulais pas m'arrêter au milieu donc il fallait que je prenne la France et l'Amérique donc 68, 9 et puis 69, 10.
J'espère qu'on vous retrouvera très bientôt, Monsieur Crozier, pour évoquer le second tome de vos mémoires. Celui-ci, Ma belle époque, est paru chez Fayard. Merci beaucoup d'être venu au fil des pages et j'espère que nous vous retrouverons prochainement.